Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour le roman de Jean Giono, Regain. Cette nuit, Panturle a eu un rêve qui l'a tourné de côté et d'autre et qui l'agaçait, comme un chatouillement au creux du coude. Avant de s'endormir, il a pensé à sa solitude, à ce temps de Gobert et de Mamèche. Puis il a pensé avec ardeur à la Mamèche elle-même. Si elle avait été plus jeune. Folie de se dire ça, mais aussi cette grande haine que le monde a contre lui depuis le soleil jusqu'à l'herbe, cette force molle que le printemps a mise au creux de ses reins et qui bout là comme une eau toujours sur le feu. Si la Mamèche était encore là, il attendrait le jour. Ah oui, il attendrait le jour parce que cette nuit est trop mauvaise pour son entendement et il n'est pas sûr de ses gestes. Et puis, le jour venu, il irait lui dire « Puisque tu veux m'en chercher une de femme, va, puisque tu sais où elles sont, celles qui veulent. » Mais à y réfléchir, c'est peut-être ça son départ. Elle était tenace dans ses idées. On a cogné contre la porte. Un bond, il va ouvrir la nuit déserte, le salut. Il s'est recouché. Il s'est endormi, et tout de suite, cette femme qu'il veut, il l'a eue là, allongée contre lui. C'est de la chair blanche, c'est contre lui du genou jusqu'à la poitrine. Il s'est réveillé comme un bloc de bois qui a plongé, remonte au-dessus de l'eau. Il est étendu sur le ventre. Il s'est remis sur le dos. Alors c'est revenu, plus doucement, de plus loin, mais c'est revenu. Une maison où il allait du temps de son service militaire derrière les abattoirs de la ville. Chaque fois, on se battait avec les artilleurs. On passait un petit pont dans le ruisseau sale. Dessous, l'eau dormait dans les détritus et les débris de viande. Une eau noire avec une peau de soie de toutes les couleurs. Il y avait de tout, des vieilles tripes, des pieds de bœuf écorchés, raides, avec le sabot gonflé comme une tête. Il a sauté sur son matelas comme un poisson. Il s'est réveillé, il est allé devant la fenêtre. Dehors, c'est la belle lune. Et il est resté tout malade contre cette belle lune qui fait déborder le bassin de la vitre jusque près de l'âtre. Une bête est venue jouer dans la prairie. Ce devait être une femelle de blaireau. Elle s'est mise sur le dos, le ventre en l'air, un beau ventre large et velouté comme la nuit et qui était plein et lourd. Ce matin, il essaie encore de traire Caroline. La mamelle est dans sa main comme une petite bête morte. Elle ne vient même plus, cette goutte de lait jaune. C'est fini. Il lui donne un coup de poing dans les côtes. Étonnée, Caroline esquive un autre coup en creusant les reins. Il a frappé. Pourquoi ? Il a encore besoin de frapper. Ce ne serait pas Caroline, la chèvre. Il frapperait encore. Si seulement c'était un homme, il frapperait encore. Ça lui fait du bien, parce que autrement, il se sent amer et tout fleuri comme l'aubépine. Et puis, il a attrapé le renard. C'était un jeune. Il était pris de tout juste à l'instant. Il devait être là à manger, l'appât au bout des dents, se méfiant, connaissant le système. Et puis, le pas de Panturle a sonné, le coup de dent a été un peu plus rapide, moins calculé, et la mâchoire du piège a claqué sur son cou. Il est mort. Une longue épine d'acier traverse son cou. Il est encore chaud au fond du poêle et lourd d'avoir mangé. Panturle l'enlève du piège et il se met du sang sur les doigts. De voir ce sang comme ça, il est tout bouleversé. Il tient le renard par les pattes de derrière, une dans chaque main. Tout d'un coup, ça a fait qu'il a, d'un coup sec, serré les pattes dans ses poings, qu'il a élargi les bras, et le renard s'est déchiré dans le craquement de ses os tout le long de l'épine du dos jusqu'au milieu de la poitrine. Il s'est déroulé toute une belle portion de tripe pleine et de l'odeur chaude comme l'odeur du fumier. Ça a fait la roue folle dans les yeux de Panturle. Il les a peut-être fermés, mais à l'aveugle, il a mis sa grande main dans le ventre de la bête et il a patouillé dans le sang les choses molles qui s'écrasaient contre ses doigts. Ça giclait comme du raisin. C'était si bon qu'il en a gémi. Il est revenu à la maison. La bête crevée chauffait son poing comme une bouche. Il a pendu le renard sur son seuil pour l'écorcher. Il a du sang jusqu'au poignet. Il y en a même un filet qui coule, se sèche, puis coule le long de son bras dans les poils. Il y a aussi du sang sur l'escalier de la porte. Il pèse avec son couteau pointu sur la peau. Le couteau hésite, puis brusquement se décide, s'enfonce et il faut retenir. C'est bon quand on sent que le couteau entre. Ça aurait pu être une femelle. Avec des petits comme des noix blanches, un chapelet de petits. Ça aurait pu être la mère Blaireau avec son ventre lourd qui flottait dans la fontaine de la lune. À quoi je vais penser? Je suis un peu fou et... Le vent est dans sa chemise contre sa peau, tout enroulé, tout frétillant comme une couleuvre. Le paquet des boyaux est dans l'herbe juste sous l'odeur du lilas. Il fouille dans le renard comme dans une poche. Ça, lourd et juteux comme un fruit mûr qu'il écrase, ça sent la mer, ça sent l'aubépine, c'est le foie. Du fiel vert gicle sur son pouce. Brusquement, il a été rappelé de ce côté-ci du monde. Et c'est une bonne poigne qu'il l'a pris au collet et l'a planté sur ses pieds dans notre monde d'Aubignane, en face de sa maison, en train d'écorcher un renard comme un saligaud. On entend marcher sur le chemin du village. Il écoute. Et c'est bien un pas qui bouge sur les pierres. La mamèche ? Non. Une voix d'homme. Et puis... une autre voix en réponse qui lui fait tressaillir tout le cœur et lui jette à la figure toute la chaude honte d'avoir patouillé avec les mains dans le sang. Il décroche la bête, il entre dans la maison, il ferme doucement la porte, il pousse le gros verrou. Il n'entend plus de bruit. Il sait qu'ils se sont couchés dans l'herbe. Il se baisse. Il délace ses gros souliers, il va sur ses pieds nus jusqu'à la porte. Oui, ils sont là. Pour les voir, du grenier. Il monte doucement les escaliers équilibrés de ses deux bras étendus. La lucarne est à ras du plancher, il se couche. Il s'avance d'elle en rampant, il les voit. Il la voit. Il est dans l'ombre, eux au soleil, c'est la chasse, elle est jeune. D'un bond, sans prendre garde au bruit qu'il fait, il se dresse, il se rue vers les escaliers, car là-bas, la femme a ouvert son corsage. Elle tient ses mamelles dans ses mains, il bute dans le pétrin, il roule à terre, de Dieu ! et d'un coup de poing dans cette grande poitrine de bois. Il se relève, cogne de la tête dans la pente du toit. On dirait que sa bouche est pleine de cette fleur de l'aubépine. Il crache l'ombre de l'escalier, tout étoilé d'étoiles d'or qui dansent et qui sont dans ses yeux. L'ombre de l'escalier, toute rouge dans laquelle il trébuche, ploie ses genoux, saute, glisse et descend tant sur les reins que sur les coudes, emporté par le grand élan de toute sa chair. Deux sauts et il renverse son chaudron. Ah, que sa main est longue à trouver le verrou. Un de ses ongles se tord sous le fer. Il arrache la porte qui hurle « Personne !» Le cyprès, le lilas avec sa fleur à moitié rongée par Caroline, les abeilles du toit qui montent et descendent et un petit vent dans le clocher là-haut. Il renifle un grand reniflement qui est celui des sangliers surpris, un avalement d'air qui siffle dans sa narine large ouverte. Elle est gonflée, sa poitrine, et il bat son poing sur elle dans un grand coup. Mais là, dans l'herbe, une tache ronde, un nid, la femme était là. Ce n'est plus de la nourriture de vent comme cette nuit, ça. Il y a dans ce sentier une branche qui bouge de gauche à droite. Si c'était du mouvement de l'air, elle bougerait de bas en haut. Un bruit de pierre qui roule. La branche, le bruit de pierre, ça donne une direction. C'est par là. Bon, par là, c'est tout un. On ne peut faire qu'une chose. Aller d'ici aux plantades, des plantades aux moulières, et après les moulières, on passe au bas de Soubéran, sous le seau du ruisseau Gaudissart. Bon. Il ouvre la bouche pour se gonfler à bloc de bon air doux. Courir derrière, non. Il sait. Il y a trop de jours et tout ce jour est une défense pour l'homme et pour la femme. Que faire au milieu de ce jour sinon parler avec des paroles d'homme? Il ne sait pas parler avec des paroles d'homme pour cette chose-là. Il est trop plein de cette bouillante force. Il a besoin du geste des bêtes. Il est rentré. Il a mis ses souliers. Il a pris son couteau d'écorcheur de renard et il est venu là, sous le cyprès. Il a avalé encore deux ou trois goulets d'air, puis il est parti sur son chemin de printemps. C'est bien ça. Voilà le sentier, la piste de la femme. Elle est là sur ce petit fil de terre qui tremble entre les herbes. Il a un grand rire qui ne fait pas de bruit, son rire de chasseur. Il rit de savoir lire cette chose écrite dans l'air et dans la terre. C'est ce sentier aussi qui le fait rire. Ce sentier qui est déroulé dans les collines comme la longe d'un fouet. Et lui, il tient le manche avec un bon fouet et un lier sec du poignet. On va cueillir une fleur à 2 mètres dans le pré là-bas. C'est comme ça ici, plus grand. Ça le fait rire. Il en bave. Il s'essuie avec le dos de la main cimenté de sang. Il a du sang de renard sur la bouche. Le printemps est cramponné sur ses épaules comme un gros chat. Le ruisseau Gaudissart coule un bon moment sur les herbes couchées, puis il commence à s'enrager contre les rochers, et à la fin il s'enfonce dans la colline. Il a tranché de grands bancs de pierre, et il est descendu au fond de la colline. Il est là, dans une nuit grise, à ronronner. C'est son nid. Des fois, il fait gonfler son beau ventre, tout écaillé d'écume. Des fois, il s'étire entre deux os aigus de la roche. Des fois, il fait nuit tout à fait, et alors on voit seulement son gros œil couleur d'herbe qui clignote et qui guette. Panturle connaît ça comme sa poche. Même dans les endroits où c'est l'ombre bouchée, il envoie son pied juste sur la pierre qu'il faut. Il tend la main et il saisit juste la racine qu'il faut. Il colle son dos contre le flanc huileux des roches et il passe.
Si vous tirez le soleil pour se faire de la lumière, on va se creuser un canon dans le trou de la misère. Silence de faïence, tout était dit. Petite gorgée de confiance et on s'en va d'ici. On a fermé l'hôtel pour la dernière fois. Au revoir Mireille, si vient la loi, offre-lui un havre. armées, nos cabanes.
Denis Flageol.
À nouveau, le roman de Jean Giono, Regain. C'est un raccourci. À l'autre bout du défilé, le ciel entre comme un coin de fer dans la colline. On commence à mieux y voir. Le gaudissart file à toute allure comme dans une rigole de schiste bien polie. Il est là-dedans tout allongé, tout étiré, mâchuré par de grandes raies luisantes qui partent de l'ombre comme des flèches et, là-bas, dans le jour, se courbent. Il semble qu'on a étiré le ruisseau. Il semble qu'il y en a un, là-haut, sur le plateau, qui tire sur la queue du ruisseau et un autre, en bas, dans les plaines, qui tire sur la tête, comme quand on veut écorcher une couleuvre. Et puis, en approchant toujours dans la direction du jour, ça devient comme de la soie. Et c'est tout molle, et tout en luisance. Et ça se gonfle d'air et de vent, et enfin, ça reste plié sur la pente de la colline comme un foulard qu'on a mis à sécher au versant d'un talus. C'est que le gaudissart, tout mangeur de terre qu'il est, n'a pas assez mangé de plateau, qu'il débouche sur l'autre bord à 40 mètres de haut, et que de là, il saute. Il saute en 3 sauts par 3 escaliers arrondis entre des coussins de mousse. Un petit saut d'enfant d'abord, puis d'un élan il dépasse la roche et s'envoie dans une épaisseur de 6 mètres d'air. Il se reçoit sur le ressort de ses reins, il roule sur une pente de 20 mètres et alors, d'un beau vol, bandé comme un arc, il descend dans le plan soubérant au milieu d'une cuve qui roule du tambour. En bas, le sentier contourne la cuve, passe au-dessus du ruisseau sur 3 pierres plates et s'éloigne en s'écrasant dans les prés sauvages. Panturle s'est arrêté au débouché du ruisseau, juste au-dessus du seau du gaudissart, et il a pris l'affût sous un pin. De là, il voit l'orée du bois. Et dès les premiers pas qu'ils feront hors du couvert, il les suivra de l'œil d'après son plan. Et le temps a passé. Et comme ça, son désir s'est gonflé en lui jusqu'à l'emplir. Ça a écrasé tout ce qui était de l'homme. Il n'est plus resté là dans l'herbe que le grand mâle. Ses yeux n'ont pas quitté le bord du bois. Rien n'est venu au bas que 2 pies qui apprenaient à voler, les plumes du croupion en éventail et qui tombaient dans le foin sec comme des balles. Il a froncé sa bouche au lieu de rire, et reniflé, et craché, puis à 4 pattes il s'est avancé dans les herbes jusqu'au rebord. Le pain est penché sur l'eau. Il est tout maltraité de vent et d'eau, la peau de dessous, le tronc toute moisie. Panturle embrasse le tronc gluant et il monte en faisant les ciseaux avec ses genoux, en lançant ses grandes mains qui se referment sur le rond des branches, en tirant les bras, glissant les reins, de la résine plein les doigts. Dans le vide de sa tête, seul le vent sonne et son désir. Il s'est installé tout cassé comme une bête sur la longue branche au-dessus du vide. Il voit bien de là, la branche craque, il voit bien. Sa guette le rend tout tremblant. Ses longs muscles jouent tout seuls de la claquette au milieu de la chair, comme les longues cordes qui tiennent les seaux au fond des puits. Rien. La branche a craqué. Il est là, de tout son poids, avec les feuilles. Et soudain, la branche a eu un long gémissement et s'est penchée. Il a donné un coup de rein dans son instinct d'animal et jeté les mains vers l'autre branche, là-haut. Mais celle-là, c'est comme si elle s'envolait et il tombe. Il reçoit dans le dos une grande gifle d'une main froide et il voit les longs doigts blancs du ruisseau qui se ferment sur lui. Tout de suite, l'eau esquive, le couvre de son corps épais et glissant. Il la repousse de la jambe et du bras. Elle le ceinture, lui écrase le nez, lui fait toucher les deux épaules sur les pierres plates du fond. Il fait le pont avec ses reins et d'un lié des bras, d'un effort de poisson, il saute. Il vient buter de la bouche contre une masse d'air dur comme de la pierre. Il en avale de quoi s'emplir. Il pèse aussi, lui, sur l'épaule de l'eau. Il lance sa main vers la rive. Il plante ses doigts dans la terre. Elle est pourrie, elle cède à poignée. Elle vole avec des bouts de jonc autour de la lutte. La solide prise de l'eau est autour de sa ceinture. D'un coup, le ruisseau l'arrache, l'emporte, le lance par-dessus le rebord. Il s'est écaillé sur le premier escalier comme un crapaud à plein ventre et tout de suite il a recommencé à lutter. Mais au vrai, il bouche ses bras et ses jambes doucement, tout doucement comme dans de la glu. L'eau, elle bouche ses bras et ses jambes avec de la double force et de la colère d'écume. Tantôt il boit une goulée d'air et ça va. Tantôt une goulée d'eau et ça va aussi, car il y a dans l'eau un grand visage de femme qui rit avec deux canines très pointues sous les lèvres. Et il a jeté par-dessus le second rebord comme un paquet. Il a roulé sans plus combattre sur la dernière pente. Il a roulé, mélangé avec de l'eau et de la mousse et la maison aux soldats et la carne qui pourrissait à la porte comme des fleurs. Elles s'élargissent dans sa tête, ces fleurs de sang et de pu pleines de mouches, des mouches d'or dans ses yeux. Il semble que l'eau lui ferme la bouche avec un paquet de tripes froides. Et il a fait, à la fin, le grand saut dans la cuve. Depuis un moment, il a recommencé à vivre, mais il a gardé les yeux fermés. Il est venu un grand bruit doux et une fraîcheur. Plusieurs voix d'arbres qui parlaient ensemble. Il s'est dit, c'est le vent. C'est de là qu'il a recommencé à vivre. Il a reconnu la nuit au goût de l'air dans son nez. Alors il a ouvert les yeux. Mais il n'avait pas pensé à la lune, et la grande lune entre dans ses yeux, sensibles comme un couteau. Il a vite fermé les yeux. Mais quand même elle a volé, il a vu que sa tête était au milieu de l'herbe. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est resté un bon moment à se le demander, puis il a reconnu le goût de sa bouche. C'était une odeur de boue et de mousse d'eau. Il a bougé doucement sa langue et ses mâchoires comme pour mâcher cette odeur et voir au fond si ça ne ferait pas souvenir de quelque chose. Il y a des petits grains de sable qui ont grincé entre ses dents. Un peu après, il s'est aperçu qu'il était couché à plat ventre sur la pierre froide et ça l'a étonné. D'habitude, il ne se couche jamais comme ça parce que ça donne des coliques. C'est bien du petit gravier qu'il a dans la bouche. Et puis, Il a entendu au fond du vent le bruit de la chute d'eau et il a tout compris, d'autant qu'à petits pas le sens lui revient. Il s'est souvenu de la dégringolade et de la branche de pin. Et il s'y voit encore pendu comme un singe, l'épaule lui fait mal, il soupire un long soupir et il en trouve un peu l'œil pour voir s'il est bien sur l'herbe et sur la terre sèche. C'est bien la terre. Et ça va mieux. Il a vu dans la lune toute propre l'ombre d'un peuplier. Il pense « Si je reste comme ça sur le ventre, je vais attraper la misère. » Et il essaie de se tourner, et il se tourne d'un bloc. La lune pose son doigt blanc sur ses paupières. Une voix à côté de lui dit « Il a bougé !» Il a ouvert les yeux sans plus penser à la lune et il a dressé la tête, on dirait la voix de la femme. Et c'est elle. Elle est assise là dans l'herbe à côté de lui. Elle le regarde. Elle a parlé. Personne n'a répondu. « Alors, ça va mieux ?» elle demande. Sur le coup, il ne comprend pas. Puis il répond « Mieux ? Oui. Et vous ?» Oh, moi, j'ai eu bien peur. J'ai pas pu dormir. Je suis venu, comme ça, voir un peu ce que vous faisiez. Juste, vous étiez en train de vous tourner, alors j'ai pensé, ça va mieux. Ça m'a enlevé un poids de dessus la poitrine. Elle est dans la lune, il la voit bien, sa figure pointue et pâle comme un gros navet, presque pas de menton, un long nez en pierre lisse, des yeux comme des prunes, ronds, veloutés, luisants, sa lèvre gonflée par ses deux dents qui pointent quand il rit, c'est la plus belle. « Vous êtes bien brave, » dit Panturle. « Et alors c'est vous qui m'avez tiré sur l'herbe ?» Il crache pour faire sortir ce goût de sable et de source qui est dans sa bouche. Elle se traîne dans l'herbe sur les genoux jusque près de Panturle. Je m'approche pour ne pas le réveiller. Oui, c'est moi qui vous ai tiré. Ça s'est fait comme on débouchait du bois. On avait le seau du ruisseau tout pendu devant nos yeux et on le regardait. Et puis on avait vu un grand morceau d'arbre qui tombait et puis comme un paquet de linge. Elle a dit, on a laissé échapper la lessive. Je lui ai dit, oui, lessive, c'est un homme. Il m'a dit, ah, va, un homme. Moi, j'avais tout de suite vu, je lui ai encore dit « C'est un homme !» C'est juste au moment où vous avez fait le grand saut et on vous a bien vu, tout allongé dans l'eau qui tombait. Alors on est venu en courant, vous filiez tout raide sous l'eau comme un gros poisson et l'élan vous avait mis au bord et on vous a tiré sur l'herbe, lui et moi. Tout de suite, vous avez dégorgé de l'eau. Il m'a dit « Il n'est pas mort, il va revenir !» On a attendu un moment. Ça ne revenait pas. Alors il a dit, « D'autant plus qu'il fait nuit, qu'on couche là ou ailleurs, ça fait pareil. Seulement il faut s'en aller d'à côté de la chute, parce que c'est tout humide comme de pluie. Et on est venu jusqu'ici, on vous a traîné dans l'herbe, parce que vous êtes lourd et que lui c'est un vieux, et que moi, pas vrai, je suis qu'une femme. Regardez, il y a encore la trace dans l'herbe. » C'est vrai. Il y a dans le pré une large piste d'herbe couchée. Panturle est au bout comme un char au bout de son chemin. « Ça vous a donné de la peine ?» il dit. « Oui, bien sûr, vous êtes lourd. » Et elle continue. « Vous êtes lourd, mais on vous a tiré par les bras. Les jambes traînaient, puis on a fait du feu. Vous sentez ?» On sent le thym brûlé et la souche de chêne. « On a essayé de vous sécher, et puis vous avez commencé à respirer, alors il a dit « Laissons-le, on va dormir. » Lui, il s'est mis à dormir tout de suite. Moi, ça n'a pas été possible. Je suis venu voir comment vous alliez, et vous avez bougé. Voilà. » Nous avons terminé pour ce soir, donc... La lecture de ce roman de Jean Giono Reguin que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.